Des questions?
Est-ce que dans la façon de sortir par le haut, il n'y a pas une question qui est un peu souvent négligée, qui est celle de la compensation?
Oui. Alors, effectivement, la compensation, ça donne de la marge. Pour faire accepter, parce que c'est une expression que les sociologues aiment beaucoup, l'acceptabilité du projet. Moi, je n'aime pas, mais elle est utilisée, donc je vais l'utiliser. Voilà, il y a une façon d'atténuer l'impact violent que peut avoir une infrastructure sur un territoire, qui est d'offrir des compensations. Par exemple, au moment du conflit du TGV Méditerranée, la SNCF avait fini par proposer à tous les propriétaires de logements une certaine distance de la ligne, de leur racheter, s'ils le voulaient, leur bâtiment, leur propriété, au prix du marché avant le projet. C'est des questions, par exemple, qui se posent à RTE actuellement, par rapport aux lignes à très haute tension. Parce que une ligne à très haute tension, évidemment, n'a aucun impact positif sur le territoire qui est traversé. Et il y a des craintes, ou plus ou moins fondées, ça peut se discuter du point de vue scientifique, par rapport aux effets de ce passage. Le problème que ça pose, c'est le coût. Surtout dans le contexte des finances publiques actuelles. Voilà. Donc c'est probablement quelque chose qui va être utilisé à la carte, c'est-à-dire que quand on a un conflit vraiment majeur, que c'est un moyen de sortir du conflit en faisant sortir du conflit une partie des opposants, les riverains, ou une partie des riverains, ou diviser le camp des opposants, je pense que ça peut être utilisé. Voilà. Alors après, il y a la question des compensations environnementales, c'est-à-dire recréer de l'espace naturel, c'est peut-être davantage à ça que vous pensiez.
Je pensais aux deux, en fait.
Aux deux, très bien. Les compensations environnementales, c'est-à-dire on détruit 50 hectares de zones humides, on va en reconstruire 75. C'est très évidemment mis en avant comme un geste, une folle prodigalité par les maîtres d'ouvrage. En réalité, c'est très très contesté. D'une part, parce que c'est pas si simple de reconstituer un milieu naturel, que d'autre part, ça s'entretient, et que l'expérience qu'on a d'opérations d'ingénierie environnementale de ce type donne souvent des zones qui, faute d'entretien, au bout de quelques années, dégénèrent complètement. Donc c'est pas si évident que ça, qu'on est capable, aujourd'hui, on a la technicité, mais qu'on a aussi les institutions ou les outils pour assurer sur un long terme, jusqu'à ce qu'elles se naturalisent d'une certaine façon, la pérennité de ce type d'opération.
Pour les projets d'équipement ayant un impact sur l'environnement. Donc cette ordonnance ne flèche pas directement Notre-Dame-des-Landes, mais on imagine bien que c'est fait un petit peu pour ça. Mais
oui.
C'est pas, il n'y a pas de montant, il n'y a pas d'objet précis, il n'y a pas de montant d'investissement. Donc j'avais un peu questionné moi le CGDD pour demander quel est le périmètre de cette ordonnance. Mais ça ouvre la possibilité d'organiser des référendums locaux sur tout projet d'équipement. Quel est, à votre avis, l'impact de cette ordonnance sur des futurs projets qui ne tomberaient pas peut-être sous coup du débat public et où, enfin voilà, donc...
Alors, ce type de... je dirais trois choses. D'abord, en théorie, la manœuvre est extrêmement habile par rapport à Notre-Dame-des-Landes. Elle est très
hollandaise,
mais de la meilleure période. C'est-à-dire, si... mais non, mais moi j'essaye d'être, voilà, de paraître ouvert, donc... c'était peut-être
avant la présidence.
C'était la tête du PS. Oula, bon, alors, là on s'éloigne du sujet. Voilà, mais je pense que ça pose plusieurs problèmes fondamentaux qui ont été soulevés par à la fois, alors très, très ouvertement et publiquement par des écologistes et Delphine Bateau, l'ancienne prédécesseur de Ségolène Royal, et puis beaucoup moins publiquement par des maîtres d'ouvrage. La première question que ça pose, c'est est-ce que l'écologie est soluble dans la démocratie? Et Delphine Bateau dit, voilà, est-ce qu'on imagine faire un référendum local, y compris à l'échelle du département du Haut-Rhin, sur la fermeture de Fessenheim? quand il y a des politiques, sur des politiques nationales ou européennes, comme la protection des zones humides, est-ce qu'on peut accepter de les mettre, de les faire dépendre à chaque fois de l'accord de la population du territoire concerné? Et ça, c'est une vraie question. C'est-à-dire, on risque d'avoir des politiques à peu près vidées de leur contenu, c'est-à-dire ne s'appliquant en théorie, mais en pratique jamais, ou presque jamais, parce qu'à chaque fois, il y aura des projets, et que ces projets seront soutenus par une majorité, 50% plus une voix, des gens qui seront mobilisés pour aller voter. Ça, c'est un premier vrai problème. Deuxième vrai problème, est-ce que ça a du sens, parce qu'il y a quand même une contradiction dans cette histoire, à soumettre des projets d'intérêt national à un référendum local? Le bon fonctionnement de la démocratie voudrait que les projets soient décidés à l'échelle géographique et politique qui correspond à leur impact sur le territoire. Alors, en réalité, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que Notre-Dame-des-Landes, c'est un projet de l'État, donc c'est un projet national, et en fait, l'impact, il ne sera pas sensible à Nice. Enfin, si, peut-être pour les gens qui voudront aller à Nantes. Mais bon, c'est pas vraiment... c'est discutable. Mais il y a quand même chose qui est un peu gênant. Bon, il y a... Alors, ça, c'est des choses qui sont mises en avant par les écologistes, et puis ce qui est mis en avant par les maîtres d'ouvrage, mais plutôt off, c'est est-ce qu'on va devoir se taper des référendums sur tous nos projets? Et là, ils n'ont pas du tout envie. Donc, est-ce que ça va faire jurisprudence? Et que finalement... surtout si le référendum se traduit par une victoire du don, mais je ne pense pas que ce sera le cas, à Notre-Dame-des-Landes, et surtout dans cette hypothèse-là, est-ce qu'on va avoir de plus en plus de référendums, en tout cas réclamés? Donc ça va encore compliquer l'histoire du débat public, ou de la concertation, puisque une partie des acteurs se sentant battus dans le débat public, en tout cas par la décision du maître d'ouvrage, diront, eh bien, nous exigeons maintenant un référendum. Et donc on va repartir sur des opérations qui sont coûteuses, qui sont longues, et qui sont risquées pour le projet.
J'ai suivi beaucoup de ces débats publics sur mon territoire ces dernières années.
C'est quoi votre territoire?
C'est la Normandie.
D'accord.
Donc, à retour d'expérience, mais surtout vous interroger sur l'outil débat public, qui pour moi, en fait, par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui et ce qu'on fait depuis quelques mois ensemble, c'est quand même un outil très top-down. C'est-à-dire, en gros, le maître d'ouvrage, il arrive avec son projet, il va nous présenter ce projet-là, il va y avoir un débat évidemment, puis ensuite, ça part à autre chose. Mais la finalité du débat et les objectifs sont très vertueux, vous l'avez identifié. Au final, qu'est-ce qu'il en ressort de ce débat-là? C'est une difficulté que
l'on a quand même. Alors, d'abord, ce que va être le débat public, c'est le résultat de l'action de tous les acteurs qui y participent. C'est-à-dire, le maître d'ouvrage est un de ces acteurs, mais je dirais que c'est quand même celui qui est le plus contraint par l'exercice. Dans la forme, comme je l'expliquais tout à l'heure, dans ses arguments, c'est le plus surveillé. Il arrive d'ailleurs que les présidents de CPDP surjouent la sévérité vis-à-vis du maître d'ouvrage pour convaincre les opposants qui sont bien neutres. Non. Donc je dis souvent que le débat public, c'est une épreuve pour le projet, parce qu'il est mis à l'épreuve, c'est une épreuve pour les équipes de projet, parce que vraiment, ils souffrent. Heureusement qu'ils font appel à des cabinets de consultants qui les coachent en leur disant « il faut répondre comme ça, là, il fallait absolument pas faire ça, etc. » Donc ils ont du média training, enfin du debate training qui est assez bien fait, mais c'est vraiment dur. Les opposants ont un rôle extrêmement important dans ce que va donner le débat public. S'ils choisissent une stratégie de refus total, absolu, frontal du projet, eh bien, ils courent le risque que le projet, s'ils ne sont pas capables de créer le rapport de force, soit finalement adopté tel quel. S'ils entrent dans une démarche de contre-proposition, et en fait, ils ont souvent le sentiment de mettre la main dans l'engrenage. Et Mercadal, dont je parlais tout à l'heure, avait une expression très parlant pour parler de ces opposants qui ne veulent pas se salir et prendre le risque de la participation à l'élaboration du projet par des contre-propositions, ils disent « loup nous sommes, loup nous resterons hein, » et pas chien, comme dans la fable de La Fontaine. Ils ont une responsabilité, et le président de la commission particulière a une responsabilité, et les élus ont une responsabilité. Donc, je ne crois pas que le débat public soit condamné à être... un exercice en trompe-l'œil. Je pense qu'il y a des débats où les vraies questions sont posées. Et après, c'est du point de vue tactique et stratégique quelque chose d'extrêmement intéressant à étudier, un débat public, parce qu'on voit les compétences tactiques et stratégiques des uns et des autres, les erreurs ou les beaux coups réalisés par les uns et les autres. Et alors, comme je l'expliquais tout à l'heure, les opposants peuvent être d'une totale malhonnêteté, ça leur est pardonné. Sur le projet de réaménagement du port de Nice, ils avaient projeté une projection de l'effet d'un navire de croisière sur la vue qu'avaient les habitants qui, dans la maison donnée sur le quai. Ils avaient simplement multiplié par 3 la hauteur, et c'était une géographe qui avait fait ça, donc je pense qu'elle le savait parfaitement. Et voilà, le projet a été abandonné. Hein. Donc ça peut être efficace, alors que le maître d'ouvrage ne peut absolument pas se permettre ce genre de choses. Ça serait, il serait mort. Hein, puis de toute façon, ça passerait par, il est trop contrôlé.
Oui, moi je trouve que ce principe du référendum, il a au moins le grand mérite, c'est qu'il fait parler, il peut donner la parole aux masses silencieuses qui ne se mobilisent pas pour, contre le projet. Alors je vais vous donner un petit peu mon expérience et qu'on est en train de vivre. On a une unité de méthanisation, un projet à 27 millions d'euros, qui est quand même un gros projet de méthanisation, et le même à 80 km, à Jetmont dans les Landes. À Jetmont a connu, ils ont perdu 3000 emplois dans le meuble, et donc aucune opposition, il n'y a eu aucune communication du maire, et c'est passé, il n'y a rien eu, pas, tout est passé tout seul. Chez nous, on a voulu communiquer par anticipation, on a voulu donner la parole, etc. On a fait venir des experts et on est actuellement en tribunal administratif, enfin, c'est passé la semaine dernière, dans le résultat, par des opposants dont l'unique crainte, c'est de voir une dépréciation de la valeur de la maison qui se trouve quand même à 1,5 km du site où il y a des silos qui sont plus gros que le seront les silos de l'unité de méthanisation. Mais voilà. Avoir l'occasion de parler, de pouvoir s'exprimer, de marquer des panneaux non à l'usine à gaz, les torchères pour les autres, etc. Donc, là, je parle.
Bon NIMBY.
Donc,
oui, bien sûr.
Et on a fait un expert. Heureusement, chaque fois qu'on a fait venir des experts, on a réussi à convaincre la masse silencieuse. Hein, parce qu'on les a mobilisés. Mais à la fin, les autres, de façon sous-jacente, et 3 ans après, on déposait un recours auprès du tribunal administratif.
Alors, c'est juste ce que je disais tout à l'heure sur le potentiel conflictuel ou pas des territoires, c'est un point important. Donc ça peut amener les maîtres d'ouvrage à faire ce qu'on appelle les études de contexte préalables et quelquefois en masqué. Hein, j'ai des étudiants qui sont en apprentissage chez les maîtres d'ouvrage, que je ne citerai pas, et qui sont censés faire une enquête en se présentant comme des étudiants qui font un mémoire. Ça ne peut pas dire qu'ils travaillent pour le maître d'ouvrage, parce que le projet n'est absolument pas connu. Donc ils tâtent le terrain. Donc on a un master, on apprend à tâter. Mais c'est Sciences Po, c'est pour ça. On a beaucoup plus de liberté en Seine-Saint-Denis. Ouais, voilà, c'est très utile dans la vie de savoir faire ça. Ce que vous dites illustre absolument ça, 80 km de différence, parce qu'il y a une crise économique à un endroit, et donc je veux dire, les gens ils mettent la priorité au travail, ils espèrent trouver des emplois, je pense qu'il y aura une sorte d'emploi, où il y a eu un certain nombre d'emplois pour eux, puis ailleurs c'est pas la même chose. Et alors après vous dites, bon, d'une certaine façon c'est scandaleux, ces opposants ne pensent qu'à leur patrimoine. Moi, en tant que chercheur, évidemment je ne m'exprimerai jamais comme ça. C'est-à-dire, le fait, je prends acte que leur motivation, c'est leur patrimoine. Je dirais d'ailleurs, par ailleurs, comme citoyen, s'il y a une vraie menace, ça ne me scandalise pas. Je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas le droit de défendre la valeur de la maison qu'on a mis une vie, quelquefois, à payer. Mais de toute façon, même si ça n'a pas de valeur éthique, c'est un fait. C'est ça leur cause de modification. Donc on a à prendre en compte cela pour voilà, qui ça touche, comment limiter éventuellement l'impact de cette mobilisation quand on est maître d'ouvrage.
Je veux juste un petit insiste sur la section du référendum, parce qu'il y a parfois dans le débat, quand il y aura un référendum, ce sera pur, ce sera bien, ce sera machin. Je rappelle qu'il y a plein de gens qui ne votent jamais dans les référendums, donc il y a les mêmes biais de participation dans d'autres domaines qu'on a évoqués ce matin. Et que deuxièmement, dans certains cas, on n'a pas encore vu ça beaucoup en France, peut-être pas confirmé, c'est qu'on connaît des cas de référendums sur d'autres sujets où certains maîtres d'ouvrage ou certaines organisations peuvent faire un lobbying politique intense et dépenser beaucoup d'argent pour gagner le référendum. Il y a le cas fameux du référendum sur Uber à San Francisco, où les gens d'Uber ont dépensé un fric fou pour gagner le référendum à San Francisco. Donc, c'est pas parce que c'est un référendum que c'est un truc pur qui va se passer très bien. On peut avoir des gens qui dépensent plein de ressources pour avoir des résultats.
Mais rien n'est pur, de toute façon.
Voilà, c'est ça.
Siemens, pour la flaque de Siemens, ce côté...
Voilà, c'est juste... Alors, mais... j'avais d'abord ici, puis après là.
Oui, non, mais moi, j'ai une question que j'avais posée lors de la précédente session, quand on avait auditionné Philippe Duron, avec Martin Vanier, la question de l'institutionnalisation de la participation, de la démocratie participative, et le fait que la CNDP... par la loi qui est instituée, et ce que vous dites traduit aussi un certain immobilisme une fois que, entre guillemets, le cadre institutionnel, je trouve que le cadre institutionnel broie la participation par le corsetage de tout un certain nombre de mécanismes qu'il met en place, et y compris avec l'avènement des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Vous l'avez un peu évoqué sur la participation par les sites internet au travers des CNDP, je crois qu'il y a aussi la confidentialité d'un certain nombre de réunions publics qui sont aussi le fruit que ce n'est plus par ces canaux-là de la présence physique. Et je crois que l'institutionnalisation n'a pas encore trouvé le moyen d'aller sur ce champ-là, entre guillemets, dématérialisé.
Alors, pourquoi je ne pense pas, moi, qu'on ne puisse pas parler du corsetage. Je pense que les règles qui sont fixées par la loi forment un cadre. Et ce cadre, il est protecteur pour la parole des citoyens. Il n'est pas exact, à mon avis, que ce soit un dispositif immobile. C'est un dispositif qui a su innover, je parlais des cahiers d'acteurs, qui ont été inventés, c'était une idée d'un président de CPDP une fois, c'est pas dans la loi. Et maintenant c'est pratiqué systématiquement parce que l'idée est bonne. D'autres ont eu des mauvaises idées, par exemple faire des sondages. Alors, le maître d'ouvrage tirait vraiment la gueule parce que ça lui a coûté extrêmement cher, ou bien avoir des régies vidéo, etc. Finalement, ça n'a servi à rien. L'idée a été abandonnée. Donc il y a, contrairement, je ne sais pas si c'est contrairement, contrairement à l'idée qu'on se fait du fonctionnement de l'appareil administratif, des pouvoirs publics en France, etc. Là, il y a une souplesse, une capacité d'innovation qui est, dans le passé, qui n'a pas été négligeable. Alors peut-être qu'on est arrivé au bout. Alors vous dites, effectivement, les internautes peuvent poser des questions. De même que les gens qui sont trop timides ou sociaux, qui n'ont pas le capital culturel ou social qui leur permet de s'exprimer en réunion publique, peuvent poser des questions sur des papiers qui sont ramassés par les hôtesses, et les questions sont lues par le président de la CPDP, et le maître d'ouvrage y répond comme aux autres. Donc, les internautes peuvent poser des questions. La dimension Internet, interactive, réseaux sociaux, etc., il n'y a absolument aucun problème, je dirais juridiquement et techniquement, pour qu'elle soit intégrée dans le débat public. Ceci dit, les gens qui vont poser des questions comme ça, puisqu'on posait tout à l'heure la question du public, c'est pas n'importe qui. Et alors, peu de gens viennent, mais parmi ceux qui ne viennent pas, il y en a beaucoup qui n'auront pas cette démarche-là. Alors voilà, nous sommes tous des gens, pas surtout vous, moi, mais extrêmement branchés sur toutes les nouvelles technologies, etc. Mais il y a une grande partie de la population qui est pas dans cette situation-là. Et l'avantage aussi de la réunion publique, ou son inconvénient, ça dépend des fois, c'est de permettre des interactions. C'est-à-dire, on est quand même ensemble. C'est-à-dire, c'est pas tout à fait la même chose si j'avais fait cette conférence par Internet et que chacun vous l'aviez lu, vu sur votre ordinateur, et puis d'être ensemble réunis dans une salle. Hein. Et encore, les interactions sont plutôt plus mesurées que dans une réunion de débat public.
Ça, c'est un appel au crime, là, faut y aller.
Allez, voilà, on est sur ça.
Juste un
constat
aussi, est-ce que le débat public, vous n'avez pas le sentiment qu'il se transforme de plus en plus en un débat idéologique,
oui,
avec des visions de société qui s'opposent très fortement? Premier point. Deuxième point par rapport au, justement, au référendum. Moi, j'ai plutôt le sentiment inverse, qu'il y a plus une mobilisation des contre que des pour. On va tenter, je vais recenser ça certainement.
Vous êtes tenté?
Oui. Et que la masse silencieuse. Alors après, j'attends ça avec impatience, effectivement, pour avoir la réponse à la question. Est-ce que c'est les masses silencieuses qui se. Ou plutôt les gens qui sont investis contre, qui vont se mobiliser? J'en sais rien, mais j'attends ça avec impatience. Quelle est votre perception de ça? Notamment sur le premier point, sur une tendance à une certaine forme de radicalisation.
Ah ben moi, j'ai publié un papier dans le Monde l'année dernière sur la radicalisation des conflits environnementaux. Je pense que c'est un scénario. Ça ne veut pas dire que j'en suis tout à fait certain, ça ne veut pas dire que je sache comment et quand ça va se passer. Il est tout à fait possible qu'après un référendum qui verrait l'adoption du projet Notre-Dame-des-Landes, l'évacuation qui serait réussie, ça fait beaucoup de conditions, du site de la ZAD, il n'y ait plus de ZAD, que celle de Roibon saute, et puis les autres sont toutes petites et faciles à évacuer. Mais que, néanmoins, cette tendance à la radicalisation continue. Quand je discute avec des maîtres d'ouvrage de ce qui va se passer à Notre-Dame-des-Landes, je fais remarquer quelque chose qui les glace. C'est-à-dire que si la ZAD est évacuée, il va y avoir 500 à 1000 personnes, en comptant les gens qui tournent.
Dispo.
Voilà. Alors, en général, ils ont un peu des surfroids en disant peut-être qu'il vaudrait mieux garder un abcès de fixation, une sorte de réserve. Hein alors, peut-être que certains vont sortir de cette radicalité, peut-être que d'autres gens, au contraire, vont rentrer dedans. Et je pense qu'il y a toute une série de raisons pour que, mais qui vont pas forcément jouer, toutes, que je vois, pour qu'il y ait une radicalisation de ces luttes. Par exemple, je pense qu'il va y avoir, en tout cas c'est ce qui est annoncé, une relance de l'exploration du gaz de schiste en France si la droite gagne les élections présidentielles. Tous les candidats à la primaire le promettent, sauf peut-être Nathalie Kosciusko-Morizet, mais je ne suis pas sûr qu'elle puisse être candidate à la primaire. Il y a le spectacle absolument lamentable de l'écologie politique, la danse du ventre pour rentrer au gouvernement, les divisions, etc. Il y a la déception par rapport à la politique gouvernementale, Fessenheim qui ne ferme pas, le Grenelle et l'environnement, dont les résultats sont assez décevants, le poids des lobbies, les bouts rouges, l'écotaxe, la piteuse reculade du gouvernement sur l'écotaxe, les gens qui sont favorables à l'environnement, à la défense de l'environnement, ou qui ont une âme militante même sur ce terrain-là, ne peuvent que se poser la question, finalement, est-ce que l'écologie associative et politique, ça fonctionne? Et sinon, qu'est-ce qui reste? Eh bien, je pense qu'il reste la radicalité. Et puis, j'analyse le mouvement des âmes, et ça je l'avais expliqué la dernière fois, non seulement comme une forme de radicalisation de la lutte environnementale, mais comme une forme de territorialisation de l'intermondialisme. Il la rencontre des deux. Voilà. Alors après, à quelle échéance tout ça va donner des effets importants? Est-ce que ça va être tout de suite? Est-ce que ça va réapparaître? Je ne sais pas plus que vous.
Et parenthèse, indépendamment, mettons l'environnement complètement de côté, cette hypothèse de radicalisation de groupe dans la société aujourd'hui, après 10 ans de crise, etc., c'est une hypothèse qu'on prend très 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 au sérieux.
Oui.
Donc ce n'est pas dans l'environnement, c'est ce qu'on voit ailleurs aussi. Donc il y a un vrai risque général par rapport à ça, dans cette génération-là.
Et je ne parle pas des réactions à une éventuelle élection de Marine Le Pen. Je ne suis pas encore tout à fait là, mais voilà, il arrive qu'il se passe des choses qu'on ne croyait pas possible.
On doit arrêter à 7h30, hein, c'est ça le...
Ouais, 5 minutes.
On peut prendre encore deux questions, et voilà. Ouais.
Moi, c'est plus sur l'ensemble du séminaire, là, vraiment très, très intéressant et réussi. Justement, oui, pardon. Pour faire écho, moi, j'avais l'impression aussi que toute cette agitation autour de la participation citoyenne masquait mal, quand même, c'est ce qu'on a vu un peu aussi au cours du séminaire, l'absence de direction, l'absence de récit national. On a vu des logiques de séparatisme sociaux, économiques, etc., vraiment très fragmentées. Le corps social, d'où la mise en difficulté de l'État et puis le fait qu'on est conscient aujourd'hui qu'il n'est plus le détenteur de l'intérêt général. Mais cette, l'histoire de comment faire converger les intérêts sectoriels sur l'intérêt général, alors qu'il y a aussi, et on en sent qu'on a peut-être un peu moins parlé, mais il me semble des logiques de fragmentation culturelle, quoi. Les valeurs, le mode de vie. On en a parlé avec le monde des agriculteurs, mais je pense que c'est valable aussi pour plusieurs catégories de population. Et du coup, moi, ça me. Enfin, comment dire, je me posais vraiment la question de savoir d'une part si cette convergence des intérêts sectoriels était rendue possible, par qui. Non, moi, a priori, pour moi, c'était un peu du rôle de l'État, mais aujourd'hui, bon, peu mis en difficulté puisqu'il n'est pas le détenteur de l'intérêt général. Et puis, au-delà, disons, la construction du bien commun local, bon, voilà, avec tout. Enfin, avec des dynamiques citoyennes tout à fait remarquables et intéressantes, comment on passait un peu à l'échelle supérieure au niveau national, voire européen. Et là, je trouve que, enfin, moi, ça me laisse très perplexe. Alors, c'est peut-être un peu théorique tout ça, mais ceci étant, voilà, moi, l'intérêt du séminaire, c'est que ça m'a permis de me poser ces questions, d'être plus renseignée. Voilà.
Je vais essayer de répondre d'abord à la question. Bon, en deux mots d'abord, merci, parce que c'est vraiment dans le sens où on a voulu montrer les choses. Clairement, ce qu'on a voulu montrer dans le séminaire, tout ce collectivement, c'est d'insister sur le fait qu'il y a de plus en plus de choses qui échappent à l'État. Hein, on l'a dit, soit c'est des secteurs, soit c'est des groupes sociaux, soit c'est des entreprises qui échappent et qui ont la capacité d'échapper à la contrainte de l'État. Donc ça, c'est une tendance de fond assez lourde et qui n'est pas qu'en France. Il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles. Hein. C'est pas après au pouvoir. Le cas italien, pour ça, c'est intéressant dans les différents exemples qu'il y avait. C'était ça, c'est vrai. La deuxième chose qu'on a voulu montrer, c'est que y a certaines formes d'action d'État qui sont de moins en moins pertinentes et que cette déconnexion entre des formes d'État et des formes de société, c'est alors la question que vous posez, particulièrement difficile. La troisième chose qui était évidente, c'est que c'est pas forcément à l'échelle nationale où ça va se passer. Il y a évidemment un rôle de réinvention, de recomposition d'État au national, clairement, très fortement. On voit bien qu'il y a des bouts qui vont se recomposer au niveau national et d'autres qui vont se structurer sur les territoires et d'autres à des échelles transnationales européennes. Et que l'Europe, pour l'instant, ne fait pas le boulot. Donc là, on voit bien qu'il y a un échec historique assez lourd sur ces questions-là. Donc qu'est-ce que ça donne ensuite Donc l'une des hypothèses là-dedans, c'est la démocratie. Donc il y a tout un ensemble de gens qui disent, en développant des formes de participation diverses et variées, en renouvelant les participants démocratiques, on va réussir à faire bouger les choses. On en voit quelques éléments. C'est pour l'instant extrêmement. Pas très ténu. Voilà. Et moi, je dis toujours à mes collègues qui m'expliquent qu'en Amérique latine, tout a changé grâce à la participation au budget participatif. Là, c'est beaucoup de grèves sur les gens dont parlait tout à l'heure. Ah ben ouais, super, ouais. Ça, c'est sûr. Les inégalités au Brésil ont vachement bougé grâce au budget participatif. Si vous voulez. Ça, c'est sûr que ça a été un changement majeur. Donc, il ne faut pas tomber dans l'illusion de maximiser la participation minimum sur les enjeux secondaires. Mais néanmoins, ça donne, et ça peut être un levier, qui fait bouger des choses dans un certain nombre de cas. Donc, c'est un truc à regarder et voir ce que ça peut produire. Donc, tout l'enjeu aujourd'hui pour les gens qui réfléchissent là-dessus, c'est est-ce que ces réseaux sociaux, est-ce que ces formes de mobilisation ad hoc à des moments donnés sont en train de faire bouger les lignes, sachant que les logiques classiques d'encadrement de mobilisation, que ce soit les syndicats, notre collègue est parti, que ce soit les grandes associations, que ce soit les partis politiques nationaux, ont de moins en moins la capacité à encadrer et influencer le comportement des individus. Donc on voit bien qu'il y a un vide entre, je parlais de la main gauche, la main droite de l'État, donc c'est mon truc sur les gouvernances là. On voit bien que d'un côté, il y a des tentatives pour essayer de créer du collectif et du bien commun, soit national, soit local, avec des formes de contractuels diverses et variées, de chartes, etc. Et ça produit pas mal de choses. Donc, selon les domaines, ça peut jouer un rôle. Et en même temps, il y a ce que j'appelle la main droite de l'État, et donc tous ces indicateurs de performance et ces manières de gouverner à distance qui vont à l'inverse de ce que j'évoquais. Donc, on voit bien qu'on est sur une période où c'est en train de bouger assez fortement. Parmi les choses les plus intéressantes qui se passent en France aujourd'hui, ça n'a pas grand-chose à voir avec l'État, même si des bouts d'État peuvent jouer un rôle à un moment donné et soutenir et reprendre. Donc il y a toute une reconfiguration qui est en train de s'opérer. Je ne pense pas qu'il faille jeter. Mon propos n'était pas de jeter l'État avec l'eau du bain. C'est plutôt d'essayer de réfléchir et de poser des pistes. Comment on doit réfléchir à rééquiper l'État, à redonner de la capacité intellectuelle, à redonner des nouveaux instruments, à redonner des instruments de gouvernance pour réfléchir à ces questions-là. Donc, mon propos, c'était vraiment de réfléchir en termes de gouvernance sur ces questions-là, de se dire qu'est-ce qui se passe, comment on fait pour gouverner ces choses-là et retrouver des capacités d'action collective, hein, ce que j'ai expliqué hier. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on retrouve des capacités d'action collective à différentes échelles pour produire et donner un peu de régulation politique on voit bien qu'il y a plein de choses qui échappent à la circulation politique. C'était mon thème d'hier. Et donc, la question, c'est qui gouverne quand personne ne gouverne. Donc, c'est la question que j'aime bien. Et il faut faire attention, parce qu'il y a d'autres logiques qui peuvent jouer un rôle. On a parlé de corruption hier, on peut parler de mafia parfois, on parle d'intérêts peu visibles qui peuvent organiser des choses. Là, il y a, voilà, on est une période où on essaie de voir comment c'est. Il y a des, on n'aura pas les mêmes réponses dans différents pays. Il est clair que dans un pays comme l'Italie, qu'on a évoqué hier, ça ne viendra pas de l'État. Et ça va être une logique beaucoup plus territoriale qu'on peut avoir. Dans le cas français, on a la chance d'avoir quand même des bouts d'État qui restent. Peut-être qu'on peut réfléchir à la manière dont on peut le faire évoluer tout un ensemble de choses et l'articuler, ça s'articule quand même assez bien avec la centre d'autorité locale. Là, il y a quelque chose qui peut se jouer. Et on voit un pluralisme dans les associations qui font plein de choses. Il y a plein de choses qui s'organisent. On est à un moment donné où il y a plein d'organisations qui sont en train de se faire, dont on a du mal à mesurer un peu les choses. Alors je pense que nous, on fait partie des gens qui pensent ne pas être trop naïfs là-dessus. Il y a des choses un peu lourdes. Il ne faut pas oublier les choses lourdes qui sont en train de se passer. Ça, c'était mon propos d'hier matin pour rappeler que vu de mars, quand même, il faut un peu hiérarchiser un peu les problèmes. Mais c'est vraiment une période de ce point de vue-là qui est en train de se faire. Alors, qu'est-ce qu'on voit comme bout de choses qui sont en train de se faire? Je l'ai un peu évoqué hier matin. Moi, je crois qu'il y a un truc qui est en train de se passer quand même, c'est le changement de génération. Vous voyez, je vous disais, tous les 40-50 ans, il y a un effet génération sur des choses. La dernière fois, c'était les 68 arts. Moi qui viens après, qu'est-ce qui nous ont pollué les 68 arts? Après, il s'est passé beaucoup de choses. Et là, nous, on a vraiment le sentiment, je le dis, que sur ces générations plus jeunes, ils sont en train d'inventer des modes de faire qui sont quand même extrêmement différents de la façon dont on pense les choses. Et donc, voilà, il faut un peu voir si ces plus jeunes sont en train d'inventer quelque chose qui va un peu secouer un peu les barrières. Mais il y a aussi une vision plus pessimiste qui est ce que j'ai évoqué hier matin, c'est-à-dire un gentil déclin, on vieillit gentiment, on patauge un peu lamentablement sur tous ces problèmes, et voilà, et on décline gentiment. Donc là c'est un vrai sujet à penser à moyen terme quand même. Donc c'est un peu ces idées-là qu'on avait évoquées. Donc vraiment insister sur comment on gouverne, qu'est-ce qui gouverne quand on ne gouverne pas, et comment pour trouver les capacités d'action collective, donc inventer un peu ce que vous disiez. Est-ce que c'est un récit national? Je ne sais pas, peut-être, dans une certaine limite, et après tout, la France a des capacités de ce point de vue-là. Même si, j'évoquais hier, la nation a un peu de mal à savoir aujourd'hui, quand même, ça devient un peu plus compliqué à trouver. Mais en tout cas, c'est dans cette capacité à faire du collectif que vont se faire les différences. On voit quand même que, et chez des entreprises, et sur des territoires, et sur des tas d'organisations, cette capacité à trouver l'action collective et à donner une direction, en partie gouvernance, gouvernail, et un peu de coercition, c'est quand même ça qui va jouer. Le dernier élément que je veux dans la discussion, c'est qu'il y a quand même un truc qui va nous tomber dessus, qui va quand même un peu changer les règles du jeu. Ça s'appelle le changement climatique. Et pour l'instant, on sous-estime encore très largement, on ne sait pas trop. Et là, il y aura des questions un peu nouvelles qui vont se poser. Et il y a un moment donné, il y a quand même un certain de trucs. Et la capacité à gérer avec ça, à gérer ça, parce que vous avez à la fois le côté diversité culturelle que j'ai évoqué hier, ou qui a été évoqué ce matin sur Londres, de l'autre, vous avez ces questions de changement climatique. Et à un moment donné, ces questions-là, elles ne vont pas se gérer avec du top-down classique. Voilà. Et puis après, il y a une dernière question qu'on peut évoquer très très brièvement, et là, à Sciences Po, on va notre groupe, c'est comment on forme les gens qui vont être les managers de tout ça et les élites qui vont gérer ça. Donc là, il n'est pas impossible aussi que la formation des élites ou des gens qui vont donner une direction à tout ça, il y a peut-être un peu un boulot à faire aussi de ce côté-là. Vous voyez, quand on voit aujourd'hui, on apprend l'INA aujourd'hui, c'est juste à pleurer, quoi. C'est juste à pleurer. Et quand on voit que les gens locaux feront l'INET, une espèce de sous-ENA encore moins bien et aussi stupide, on se dit, mais arrêtez, quoi, juste faites quelque chose, quoi. C'est pas possible, quand même. Donc là, il y a aussi un sujet sur comment on forme les gens et qui vont être les gens qui vont être là. Et moi, j'ai l'impression que sur les gens qui vont prendre un peu la direction de tout ça, c'est pas les filières traditionnelles qui vont forcément être devant. Donc peut-être que là, on va voir d'autres formes et d'autres expériences. On voit bien dans les séries de gens qui sont recrutés. On voit de plus en plus de gens qui ont des expériences extrêmement diverses, entre du public, du privé, du français, international, de l'associatif, un bout de start-up, un bout d'entreprise privée. C'est intéressant. On voit qu'il y a quand même des gens qui sont en train de construire des parcours extrêmement différents. Donc voilà, moi, c'est un peu ça que je voulais mettre en conclusion pour dire on va réfléchir. On espère que l'IEDAT va y contribuer grâce à Maître Philippe. On va avoir une influence extrêmement forte de la génération qui vient. Et ses successeurs, on verra bien. Et en tout cas, et j'ai envie de vous dire que c'est un peu pour ça qu'on a fait l'IEDAT aussi. Hein. Historiquement, c'est pour ça qu'on développe un peu l'IEDAT. Et c'est de contribuer à former de plus en plus de gens qui vont penser un peu sur ces questions-là dans les différents lieux dans lesquels ils sont. Une dernière question. Donc, 4h30, on a fini. On a plus de questions. Merci beaucoup.
Et les remerciements. Merci.